Guinée orientale. J'ai réduit totalement ce qui...
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de nous écouter. Les débuts des années 90 en RDC a connu notamment des perturbations et des grèves successives des enseignants qui revendiquaient l'amélioration des conditions de leur travail. Pour pallier cette crise qui paralysait les années scolaires, les autorités de l'Église catholique avaient plaidé pour la prise en charge de l'enseignement au Congo par les parents, qu'elles ont ensuite tenté de supprimer sans succès en 2004. Aujourd'hui, 21 ans après, eux relançaient les débats sur l'impact de ces systèmes sur l'enseignement en République démocratique du Congo. Comment le jugez-vous ? Participez à ces débats citoyens et rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net. Pour votre intervention en direct, appelez-nous aussi au 081 890 63 15. Sylvain Matundou est à la technique, Fessa Julie Bongonda et Piro et la Mégie sont à la réalisation de ces programmes coordonnés et présentés par J.R. Mungembo sous la supervision de Ben Kabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15. Ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons dans ce studio Jean Bosco Pouna, secrétaire général du SINECAT, syndicat national des enseignants catholiques. Bonjour Jean Bosco.
Oui, bonjour J.R.
Vous avez été parmi, en tout cas, les enseignants qui ont été à la base au fait de l'instauration de ces systèmes de prise en charge de l'enseignement par le parent, autrement dit, le paiement des frais de motivation. Voilà, alors est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous faire un petit rappel sur les motivations de cette décision à cette époque?
Oui, merci beaucoup pour la question que vous nous posez, en fait. Il faut replacer les contextes de naissance de la prise en charge des enseignants par les parents. Aujourd'hui, d'ailleurs, il faut peut-être rectifier, c'est la prise en charge du système éducatif par les parents, parce que tout est pris en charge par les parents. Eh bien, cela, à part de 1993, vous l'avez si bien dit dans votre introduction, vers les années 90, donc, après les deux pillages qu'a connu le pays, eh bien, il y a beaucoup d'enfants qui n'étaient plus en mesure d'aller à l'école parce que, simplement, les enseignants avaient débrayé et avaient cessé de travailler, simplement parce que le gouvernement n'arrivait plus à honorer ses engagements. C'est ainsi que, en 1993, donc 2 ans de fermeture d'école, ont poussé l'Église à pouvoir convoquer ce que nous avions appelé dans les temps la tripartite, c'est-à-dire l'Église catholique a convoqué les parents et les directions scolaires, y compris les enseignants, pour que nous voyions ensemble comment on pourra pallier à cette difficulté. Et à cette époque-là, eh bien, la solution qui avait été prise, c'était que les parents puissent mettre la main dans la poche et puissent soutenir l'action de l'éducation des enfants. Mais alors, au départ, ça s'appelait simplement le transport des enseignants, c'est-à-dire ce que les parents devraient débourser, eh bien, ça devrait absolument servir à pouvoir encourager les enseignants au titre des transports, pour qu'ils puissent faire le travail, afin que les enfants soient retirés du circuit de vagabondage et de la délinquance. Donc, voilà un peu ce qui a été au départ, mais n'oubliez pas qu'au départ, il y avait l'Église d'un côté, les directions scolaires, les parents et puis les enseignants. Malheureusement, au fil des temps, eh bien, le système s'est galvaudé et nous avons la débâcle du système aujourd'hui.
Voilà, mais c'était au début, l'idée c'était pas de les pérenniser, mais au regard de la situation actuelle, on se rend compte que ce système est loin vraiment d'être supprimé.
Oui, tout à fait, J.R. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un palliatif provisoire qui devrait prendre 2 ans. C'était le laps de 2 ans qu'on avait dit, le temps que le gouvernement, en tant que pouvoir régalien de l'enseignement, en tant que pouvoir organisateur, qu'il puisse récupérer, reprendre ses responsabilités. Bon, ben, comme vous le comprenez, 2 ans après, eh bien, on a commencé à voir de nouveaux arrivants, c'est-à-dire le gouvernement a pensé qu'il était bon de pouvoir légiférer, de pouvoir sortir des actes pour gérer cette prime. C'est ça toute la crise. Donc, les parents qui devraient eux-mêmes dire combien ils vont devoir donner aux écoles, aujourd'hui, même l'Église eh bien, a récupéré toute la situation parce qu'il n'y a plus d'assemblée des parents. Ce sont les représentants légaux qui fixent les frais et ça nous met dans cette situation, la descente aux enfers du système éducatif congolais. Donc, le système au départ était juste provisoire, un palliatif qui devait permettre aux écoles de fonctionner, aux enfants de venir à l'école. Ça, c'est le souci premier de l'Église. Malheureusement, après, eh bien, tout le monde a compris que c'est un système qui pouvait profiter aux uns et aux autres. Eh bien, on est resté là, se confortant dans un système décalé.
N'ayons pas froid aux yeux, Jean Bosco Ponda, pour dire que la République démocratique du Congo est le seul pays au monde où les parents prennent en charge les enseignants. C'est vrai, les gens se posent d'autres questions. Pourquoi cela, dans la mesure où la République démocratique du Congo fait partie également de pays membres de l'UNESCO, des pays aussi membres d'autres organismes qui, au fait, travaillent dans le secteur de l'éducation.
Oui, vous avez raison, mais malheureusement, la politique de bailleurs de fonds, la politique de toutes ces organisations auxquelles vous venez de faire allusion, eh bien, c'est une politique tout à fait différente. Quand l'UNESCO, l'UNICEF évoluent ailleurs, eh bien, vous trouvez qu'ils sont dans la droite ligne de pouvoir promouvoir l'éducation. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Chez nous, eh bien, lorsque vous voyez toutes les différentes réformes qui sont initiées au niveau de l'enseignement, avec ses partenaires, eh bien, l'enseignant est mis de côté. Aujourd'hui, regardez même ce qu'on appelle le plan intérimaire de l'éducation. Quelle est la place de l'enseignant? Vous allez trouver que l'enseignant est presque renvoyé à la 40e boutonnière. Donc, lui ne compte pas. Vous allez beau construire les écoles, mais ces écoles-là vont servir à quoi? Parce que si l'enseignant ne sait pas aller à l'école, travailler à la fin du mois, il a un salaire, ça pose problème. Donc, si nous revenons au système de prise en charge, c'est un véritable obstacle pour que nous ayons la qualité de l'enseignement. Parce que les enseignants ne peuvent plus revendiquer. Dès que vous revendiquez, eh bien, c'est l'Église. Vous imaginez, par exemple, au niveau de l'Église catholique, eh bien, tous les frais que les parents versent dans les écoles, au niveau de Kinshasa, 20% sont envoyés au compte qu'on appelle le Fonds commun de solidarité. Ce qui fait qu'au début de l'année déjà, si vous avez 1000 enfants, eh bien l'Église catholique...
Le Fonds commun de la solidarité géré par l'archidiocèse.
Géré par l'archidiocèse, géré par la coordination catholique. Donc, si vous prenez 1000 enfants dans une école, déjà au début de l'année, les 20% de tous les enfants sont défalqués. Vous comprenez? Donc, de ce point de vue-là, le Fonds commun de solidarité ne peut pas souffrir qu'il y ait des perditions ou pas. Et les écoles, tant bien que mal, vont devoir se battre pour pouvoir payer aux enseignants, voilà, fonctionner et payer aux enseignants quelque chose. Donc là, ça devient très, très, très compliqué.
Donc, si je comprends bien, à ce jour, en tout cas 21 ans après, l'impact de ce système sur l'enseignement en RDC est plutôt négatif.
Bon, mais faisons les bilans. Je crois que nous sommes là en tant que parents, c'est nous qui envoyons les enfants à l'école. Moi, en tant qu'éducateur, je sais ce que les enseignants font dans les écoles. Parce que n'oubliez pas que dans cette prise en charge, il y a des coins où les parents n'ont pratiquement pas de moyens. Vous allez par exemple dans les Bandundu, vers le fond, l'arrière Bandundu. Je vais parler d'autres provinces également, à l'Équateur, etc.
Les parents, la participation est en nature.
Donc, c'est un système qui a créé un certain clivage au niveau des enfants, une certaine discrimination. Il y a des enfants qui prétendent être bien formés, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas accéder à une éducation publique de qualité. Donc, il y a des écoles, une école à double vitesse.
À double vitesse. Voilà. Voilà. Donc, nous assistons à un enseignement à double vitesse. On va ouvrir les standards pour accueillir les auditeurs qui vont participer dans ce débat citoyen, mais tout en rappelant à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que nous sommes bel et bien dans l'émission parole aux auditeurs, cet échange citoyen qui vous accorde la parole sur cette thématique relative à la prise en charge des enseignants par les parents 21 ans après. 081 890 6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Ismaël, vous êtes avec nous à Lubumbashi, bonjour. Le temps de prendre Étienne qui est à Guémena. Bonjour Étienne.
Bonjour à Radio Okapi, bonjour à M. Kouna, les grands défenseurs d'un secteur éducatif que je salue.
Votre point de vue.
Ok, merci beaucoup M. le journaliste. Je pense que c'est très important aujourd'hui de pouvoir faire un bilan du secteur éducatif 21 ans après que l'idée de la prise en charge des enseignants ait été lancée. Moi, je pense, à mon avis, que depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, là, le secteur éducatif a connu plusieurs problèmes. Et ces problèmes-là n'ont jusque-là connu aucune solution valable. Vous imaginez que, comme a dit M. Pouna, là, l'idée de prendre les enseignants en charge par les parents est une idée pour allier donc aider l'État congolais à pouvoir se réorganiser. Parce que à un certain moment, on avait compris que l'éducation, l'enseignement est le socle de tout développement d'un pays. Alors pour que un peu plus se développer, pour qu'un peu plus s'appeler un pays émergent, il a fallu soigner le secteur éducatif. Raison pour laquelle l'Église, les parents étaient mis ensemble pour décider de pouvoir aider l'État.
Oui, oui, Étienne. Oui, tout cela, je crois que les raisons qui ont fait qu'on puisse avoir ce système aujourd'hui ont été évoquées par notre invité. Mais vous, personnellement, en observant ce système, est-ce que vous avez un jugement particulier à émettre?
Ok. Étienne étant enseignant...
Est-ce que l'impact est-il négatif ou positif pour vous, sur l'enseignement?
À mon avis, je pense que oui, l'impact... Bon, c'est quelque peu mitigé, monsieur le journaliste, parce que d'une part, cela avait aidé, et d'autre part, cela a appauvri les parents. Donc, à mon avis, aujourd'hui, je pense que le système de paix, ça continue.
Oui, est-ce que vous pensez, Étienne, est-ce que vous pensez comme les autres, c'est vrai, ça a aidé, notre invité a dit, c'est, en fait, ça a plongé notre enseignement à double vitesse. Aujourd'hui, ça profite aux uns et aux autres. Mais est-ce que vous pensez aussi que, actuellement, ce système a plutôt rendu l'État congolais encore, moins efficace, moins responsable par rapport au système éducatif?
Absolument, c'est justement ce que je voudrais dire, monsieur le journaliste. Donc, parce que l'État s'est vu aidé par les parents, l'État a maintenant laissé ses responsabilités entre les mains des parents. Donc, c'est pourquoi je suis en train de souhaiter que je suggère à ce qu'on puisse simplement supprimer définitivement le système pour permettre à l'État congolais de pouvoir prendre en main ses responsabilités, mettre les enseignants à l'aise, voir les conditions sociales des enseignants, parce que, monsieur le journaliste, vous comprendrez qu'aujourd'hui, les réformes qui sont en train de se faire, les formations qui se font, n'ont rien à faire si le social de l'enseignant n'est aujourd'hui amélioré. Dès qu'on aura, dès que l'État pourra mettre les mains dans les sacs, dès que l'État va chercher à ce que les conditions sociales de l'enfant puissent être améliorées,
ça pourrait donner l'exemple. Merci beaucoup, Étienne.
On ne parlera pas.
Étienne, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. Nous retenons simplement que vous proposez, en tout cas, qu'on puisse à ce jour supprimer ce système qui, pour vous, n'a pas donné les résultats escomptés. Est-ce que Dieudonné pense également à cela? Et c'est le bilan que Dieudonné fait aussi. Dieudonné, vous êtes en Walikale. Bonjour.
Oui, bonjour, m'en faire accorder la parole aujourd'hui encore, de participer à cet échange.
Voilà, quel est le bilan que vous faites par rapport à ce système? Est-ce que vous pensez comme Étienne qu'il faille aujourd'hui supprimer ce système pour permettre à ce que l'enseignement puisse un peu redorer, que c'est l'image de notre système éducatif puisse être un peu redorée?
Oui, c'est vrai que je suis de même avis que mon confrère qui vient de vous dire là-bas. Parce que ce que moi je sais, c'est quoi? Bon, je vais donner d'abord l'irresponsabilité. Donc, notre État est irresponsable. Hein? Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons bien dans ces grands pays, il y a trop d'enfants qui n'étudient plus. Puisqu'il y a les parents qui n'ont pas vraiment assez de moyens pour scolariser leurs enfants. Bon, vous trouverez que même il y a des écoles là où s'il n'y a pas trop d'enfants, et les enseignants qui y sont, ils n'allaient pas beaucoup recevoir. Et cela diminuera toujours la qualité de l'enseignement et dans notre pays. Et il faut voir maintenant le résultat, messieurs les journalistes, aujourd'hui, avec les résultats de l'examen de temps que nous venons de recevoir aujourd'hui. Vraiment, c'est redoutable et regrettable. Et je pense que s'il y a les autorités qui nous captent à ce moment-ci, ils doivent quand même raisonner et penser comment encore réaliser et remettre encore les responsabilités. Puisque moi, je sais bien que ça, c'est l'irresponsabilité et inacceptable. Si nous parlons aujourd'hui français, dit les journalistes, et nous sommes dans un pays francophone, puisque nous étions au bas de l'école et nous étions formés, même vous, là où vous êtes à Kinshasa, mais pensez-vous, demain, nous ne serons plus, vous ne serez plus là-bas, là où vous êtes, même les invités ne seraient plus. Qui partira ces Français, monsieur le journaliste? Parce que les parents n'ont pas assez de moyens. Ils n'ont pas assez de moyens.
Oui, déjà, c'est pourquoi. Oui. Oui, allez-y, Dieu, rapidement, oui.
Oui, je disais, très rapidement, je disais ceci, que l'État prenne les responsabilités. Nous sommes dans un pays démocratique.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne des Dieudonné. Vous comprenez qu'il est à Walikale. C'est vrai, c'est quand même une grande distance hein, avec là où nous sommes. Mais de toute façon, on va prendre Franck qui est à Vienne. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à votre invité et aussi à vos amis avec qui nous allons nous échanger.
Alors, Franck, vous avez suivi Étienne et également Dieudonné qui vous ont précédé. En tout cas, les deux ont proposé la suppression donc de ces systèmes de prise en charge des enseignants par le parent. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, je crois que nous devons d'abord commencer par rappeler un des principes ou une des attributions de chaque État qui se fait responsable. Donc, parmi les attributions régaliennes de chaque État qui se fait responsable et respectable, il y a aussi la formation de ses citoyens. Par la formation, on voit la scolarité subventionnée en grande partie par l'État et la prise en charge de ses enseignants. Donc, le danger que nous décrions parfois chez nous, c'est le fait de voir que on veut souvent partir d'une exception pour en faire des lois, des principes, des généralités. Donc, à suivre l'invité, nous avons tous été vers les années 90, quand ces histoires de guerre avaient commencé, ces histoires de pillage. Donc, c'était une exception pour venir en besoin, venir en aide aux enseignants. Mais en tout cas, je crois qu'en ce moment-là, personne ne pouvait imaginer que cette pratique deviendrait un principe. Je crois que dans tous les États qui se respectent, dans tous les États où on veut avoir des citoyens capables et responsables de se prendre en charge, il faut aussi subventionner l'enseignement. Et ce qui fait mal chez nous, le domaine de l'enseignement est vraiment négligé. Et c'est comme s'il y a quelque part des pièges quoi. Mais si on ne forme pas les citoyens, moi, j'ai cette question, je me pose cette question. Si on ne forme pas les citoyens, où se trouve l'avenir de chaque État, de cet État, si les citoyens congolais ne sont pas convenablement formés? Si l'État congolais néglige l'enseignement, que ce soit primaire, secondaire ou universitaire, en quoi voit-il son avenir? Je crois qu'il ne faut pas aller par quatre chemins pour dire qu'il y a des séries de déficits qu'on doit décrier. On sait que notre État a beaucoup de problèmes. Mais on attendra aussi que l'État se montre aussi quand même responsable
oui.
dans les domaines
oui, Franck,
qui reviennent parmi ses attributions.
Oui, Franck, oui. Mais d'aucuns pensent qu'ils trouvent en cette situation un paradoxe, hein, parce que d'autant plus que l'État congolais est partenaire, a plusieurs partenaires traditionnels et surtout des partenaires qui travaillent dans les secteurs de l'éducation, mais pourquoi une telle situation doit normalement perdurer?
Oui, monsieur le journaliste, vous savez un peu comment moi je raisonne. Je trouve que c'est toujours un problème d'homme. Vous savez, chez nous, si quelqu'un sait que dans cette situation, il trouve son mieux là-bas, même si c'est une situation qui pénalise 99% de ses compatriotes, il préférerait le maintenir en place. C'est seulement un problème de conception, un problème d'humanité, un problème de bon sens. Donc, la plupart des citoyens congolais savent que ce système ne permettrait jamais à beaucoup de parents congolais de scolariser leurs enfants dans de bonnes conditions. Mais seulement ceux qui se retrouvent à l'intérieur, il faut encore les maintenir pourvu qu'ils se servent. mais en se servant et qui pense aussi à la misère des autres et qui pense aussi aux difficultés des autres parents. C'est à ce niveau-là que nous devons militer pour dénoncer ce qui ne va pas afin que, aux décennies à venir, que nos neveux, que nos nièces, que nos cousins se retrouvent dans ça. C'est vraiment des futurs. Si nous nous faisons ça, donc on aura laissé un pays avec des véritables vraiment
pays. Voilà, c'est dommage parce que des décennies durant, on a connu cette situation et nous l'avons dit d'ailleurs au sommaire de cette émission que, en fait, le système, il y a eu une première tentative de suppression de ce système qui était sans succès donc en 2004 par l'Église catholique. On ne sait pas pourquoi cela n'a pas marché, pourquoi les partenaires ne se sont pas mis d'accord quant à la suppression de ce système. Nous en saurons un peu plus avec notre invité, mais il est temps de demander à Eddy de garder la ligne et à Rachel qui est à Issy Roïdi El Mbachi, 081 890 6315, pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous revenons à vous, Jean Bosco Pouna, secrétaire général, syndicat Sénécat, syndicat national des anciens catholiques. Alors, vous avez suivi les uns les autres. D'abord, une réaction par rapport à leur intervention.
La réaction, c'est que je pense que tous les intervenants ont bel et bien raison, parce que nous nous soucions, nous tous, de l'éducation de nos enfants. Si aujourd'hui nous n'avons pas une jeunesse compétitive, eh bien demain, ce pays sera géré par les autres. Vous voyez comment notre pays est convoité par les voisins. Et donc, nous avons plus que besoin d'une jeunesse qui soit compétitive. Alors, j'ai renchéri aussi pour dire que dans tout ce qu'ils ont dit, eh bien, ils ont énuméré les conséquences. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une certaine baisse criante du niveau de l'enseignement. C'est chaque année que nous perdons plus ou moins 20% de la qualité de l'enseignement. Et c'est grave. Il y a également la perte de l'estime et de la dignité de l'enseignant. Qu'est-ce que représente encore l'enseignant aujourd'hui? Parce que c'est les parents qui sont son employeur. Au moment où c'est l'État qui est son principal employeur, l'enseignant ne peut pas avoir deux employeurs. Il y a également les désengagements tacites de l'État. Comment voulez-vous que les parents puissent prendre en charge les imprimés? Donc les bulletins, ce sont les parents qui payent. Les évaluations, l'examen d'État en affaires, ce sont les parents qui payent. Les salaires, ce sont les parents qui doivent payer. Nous pensons que c'est de l'exploitation. Et il y a l'enrichissement sans cause de certains gestionnaires qui pensent que le système doit perdurer. Mais nous tous, que ce soit les gestionnaires, que ce soit les églises, que ce soit l'État, que ce soit la population, lorsque nous faisons les bilans, nous tous, nous nous rendons compte que le bilan est largement négatif. Le seul point positif, c'est que ça a permis aux écoles de pouvoir fonctionner de manière tant bien que mal. Ça a permis quand même aux écoles de fonctionner. Mais est-ce que nous avons besoin de ce genre de système éducatif? Nous pensons qu'il faut absolument changer ce mode pour que nous ayons demain une jeunesse qui puisse être capable de faire, de prendre la relève. Vous allez comprendre que le système va de la maternelle jusqu'à l'université. Donc, ça devient très dangereux. Et aujourd'hui, que l'on parle de plus en plus des enseignants non payés et puis de la gratuité, on décrète une gratuité sans de mesure de compensation. On croyait que lorsqu'on allait décréter la gratuité, eh bien, il y aurait eu des salaires pour les enseignants. Malheureusement, tout cela n'arrive pas. Il y a des réformes, des multiples réformes. Toutes les organisations, tous les différents pays assistent le Congo en matière d'éducation. Mais lorsque vous regardez la situation de l'enseignement, eh bien, ça va de mal en pis. Et c'est regrettable. Lors de notre dernière Assemblée Générale du 30 juillet, eh bien, les enseignants ont carrément démontré que la pédagogie était en dessous des normes. Et lorsque vous êtes en dessous des normes, ça ne peut pas marcher. Regardez, aujourd'hui, on parle de l'accès. L'équité, l'accessibilité à l'école. Mais si vous avez beaucoup d'élèves à l'école, vous n'avez pas d'enseignants formés. Vous avez des enseignants qui travaillent comme des bénévoles, donc des journaliers. À la fin du mois, ils n'ont rien. Eh bien, c'est un tort qu'on est en train de causer à notre jeunesse. Nous avons aujourd'hui des classes pléthoriques. Au lieu d'avoir, par exemple, une classe de 45 enfants, c'est déjà trop d'ailleurs, mais aujourd'hui, vous trouvez des classes de première année avec 80 enfants, 80 élèves, dans les écoles conventionnées. Et nous pensons que c'est vraiment criant. Comment un enseignant, professeur de français, peut-il suivre la dictée de 80 élèves? Vous comprenez que ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment une bombe à retardement. Mais il y a, je prends la dissertation. Vous avez 60 élèves en 5e année, 6e année. Les normes nous disent qu'il faut donner 10 dissertations. Il faut les corriger. Donc vous comprenez que les écoles ont besoin d'avoir plus d'enfants pour qu'on ait plus d'argent venant des parents, de l'argent qui peut être réparti copie à gauche, à droite, et à l'enseignant, on va laisser un petit lien. Il n'est pas motivé, en fin de compte, au niveau des outputs, c'est-à-dire l'enfant qui sort des humanités, eh bien, le niveau est au rabais. Alors, il y a deux tentatives de suppression. Vous avez parlé de 2004. 2004, nous avons fait beaucoup de pression. L'Église a compris qu'elle était vraiment sur, en dehors de ce qui devrait se faire. En 2004, il y a un mémorandum qui n'a jamais été abrogé, signé par tous les évêques de la République démocratique du Congo. Parce qu'ils ont fait les bilans et ils ont demandé au gouvernement de supprimer cette prise en charge des enseignants par les parents. En 2004. En 2005, nous nous sommes battus avec le ministre Ndamombel. Eh bien, au niveau de l'État, il y a eu également cette volonté de pouvoir supprimer parce qu'il y a un acte qui avait été pris. Malheureusement, lorsque en 2005, en 2006, lorsque le ministre, l'actuel ministre est arrivé, eh bien, c'était la résurgence. Tous les partenaires se sont encore confortés pour relancer.
Est-ce que vous pensez
c'est dommage?
Oui. Alors, on va encore repasser de l'autre côté de Sandra, mais laissez-moi vous poser juste une question de curiosité. Est-ce que vous pensez, comme certains observateurs, que cette suppression du système, la suppression du système, ne passera forcément que par l'application du barème des Mboudi?
Bon, mais il faut dire que le barème des Mboudi, c'est un sauvetage. Hein? Lorsque vous compulsez ce barème, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, vous avez 208 dollars pour le huissier. Lorsque vous payez à un huissier 208 dollars, le professeur, l'enseignant n'est pas huissier. Eh bien, il a un certain grade. Il peut toucher 300 dollars. Lorsque vous payez 300 dollars à un enseignant du primaire, est-ce que vous pensez que vous lui avez vraiment donné le paradis? Que non. Et donc, pour nous, c'est le minimum. Et n'oubliez pas que l'accord de Mboudi, c'était un accord voulu par le gouvernement. Nous avons toutes les signatures. Donc, c'est le cadre légal, en fait, qui devait sortir notre système éducatif de ce marasme. Nous ne disons pas que l'État doit tout payer. Nous comprenons qu'il est confronté à beaucoup de difficultés. Mais ce barème est le seul cadre qui puisse permettre que le gouvernement affiche une certaine volonté afin que les enseignants puissent toucher un minimum vital qui leur permette de faire le travail, de scolariser leurs enfants au lieu d'aller dans les écoles. Oui, par exemple, s'il y aura rentrée, d'aller scolariser les enfants des autres au moment où eux laissent leurs enfants affamés à la maison. Nous pensons que les choses doivent absolument changer.
081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous retrouvons Eddy qui est à Lubumbashi. Eddy, bonjour.
Bonjour, M. Pierre.
Vous avez la parole. Votre point de vue, Eddy.
Bon, moi, je suis contre la suppression immédiate de la prise en charge des parents. Je suis pour une suppression progressive. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous supprimons aujourd'hui la prise en charge des parents, je vous dis la vérité, toutes les écoles vont fermer. Parce que je me dis, d'après les dernières informations que j'ai eues, il y a au moins 520 000 enseignants dans le secteur public. Alors si je me dis, il faut leur donner à peu près 300 dollars, prenons 500 dollars, c'est-à-dire il faut au moins 2,5 milliards de dollars uniquement pour le paiement
des enseignants.
Ah, oh, pour la paie des enseignants. Or, notre mobilisation propre l'année passée tourne autour de 5 milliards de dollars. Donc, une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous avez une bouteille de 30 centilitres, vous ne pouvez pas donner 50 centilitres. Il faudra donc qu'on mette en place un programme de suppression progressive. En effet, qu'est-ce qui se passe dans l'enseignement? Ici, il faut d'ailleurs rappeler quelques chiffres. En 2001, enveloppe salariale des enseignants, 2 millions de dollars par mois. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 35 millions de dollars par mois. Monsieur Gier, ce sont des chiffres que je parle sous la surveillance d'un syndicaliste. Il va soit confirmer ou affirmer ce que je dis. En 2001, il y avait que 35 000 à peu près enseignants qui étaient payés, qui étaient matriculés. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 340 000 qui sont payés. Il y a à peu près 100 quelques mille enseignants qui ne sont pas encore payés. Alors, vous ne pouvez pas dire que le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement est en train d'améliorer les choses, mais cette amélioration ne se fait pas encore sentir. Avant, on ne donnait pas le frais de fonctionnement aux écoles de l'État. Aujourd'hui, le syndicaliste peut confirmer, on estime ce que j'ai dit, il y a de l'argent qu'on donne comme frais de fonctionnement à toutes les écoles de l'enseignement public.
Et vous avez une idée, j'ai dit, vous avez une idée de ce montant de frais de fonctionnement?
Non, non, le syndicaliste peut nous aider, parce que moi j'ai toujours suivi que l'on donne ça. Le syndicaliste peut nous donner des
conseils.
Mais non, le problème c'est quoi? On a trois paliers. Il y a l'enveloppe salariale, il y a le frais de fonctionnement, et puis il y a aussi l'intervention des parents. Alors, nous devons faire ceci. Chaque année, on augmente l'enveloppe salariale des enseignants, on augmente le frais de fonctionnement qu'on donne aux écoles, et qu'on commence maintenant à diminuer les frais de des parents.
Mmh.
Alors, on peut élaborer ainsi un programme même en 10 ans. Si on commence à réduire de 10% chaque année, 10 ans après, les élèves, disons les parents, n'auront rien à donner.
Mm-hmm.
Maintenant, pour qu'on augmente l'enveloppe salariale, il faut que nous aussi, nous Congolais, nous puissions augmenter nos recettes. Parce que ce que nous allons donner à l'enseignement doit être proportionnel, disons l'augmentation de l'enveloppe salariale doit être proportionnelle à l'augmentation de nos recettes. Alors, nous devons encore beaucoup plus travailler. Et si vous regardez bien, vous avez suivi qu'on a découvert du pétrole du côté province orientale. Il y a Sassim qui va bientôt commencer à 40 km d'Mbisha.
Oui.
Il y a une entreprise.
Mais voilà, Eddie, on a compris. Hein, c'est vrai, on ne va pas s'éparpiller. Nous retenons que pour vous, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'avis, donc vous ne partagez pas d'avis autour de la suppression de ces systèmes. Vous proposez plutôt un programme de suppression progressive pour permettre à ce que les choses s'organisent et l'été du côté de l'État et aussi du côté de notre partenaire, en proposant bien entendu trois pistes, c'est-à-dire l'augmentation salariale des enseignants et aussi le frais de fonctionnement, tout en diminuant, disons, in fine, les frais de motivation avec un programme que vous proposez qui peut aller même au-delà de 5 ans. Voilà, merci beaucoup, hein, Eddie, d'avoir appelé de Lubumbashi. Nous prenons Rachel qui est à Isiro. Bonjour Rachel.
Allô, bonjour, ça l'invité.
Rachel, vous avez la parole, votre point de vue.
Merci beaucoup, merci pour la parole. Bon, ce que je dirais, c'est en parlant de supprimer la prise en charge des parents pour les mineurs, c'est vraiment une bonne chose. En parlant de ça aussi, j'aimerais te dire, ça dépendra aussi. En supprimant donc la prise en charge des parents pour les frais scolaires, c'est bien parce que ça permettra aux enfants d'aller à l'école parce qu'il y a d'autres enfants. Les parents n'ont pas assez de moyens. Et si on s'y prenait ça, alors on verra plus d'enfants aller à l'école. Et autre chose, si les enseignants en question sera bien rémunéré, là aussi, ça permettra aux enfants d'être bien formés.
Oui, ça améliorera la qualité.
Oui, oui.
Ça va améliorer la qualité de l'enseignement.
La qualité de l'enseignement, voilà. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce que je peux vraiment dire, enseignement de plus en plus, ça devient vraiment fou.
Voilà, merci beaucoup Rachel, parce qu'il y a un autre invité qui a parlé d'ailleurs de conséquences, hein, en évoquant trois choses, donc le 20%, la perte de la qualité de l'enseignement, autour de 20% pratiquement, puis la perte de l'estime même de l'enseignant. Aujourd'hui, on essaiera de le dire, il n'y a pas de modèle qui aimerait bien être comme son père qui est enseignant, lorsqu'il regarde les conditions de son travail qui ne sont pas réunies, et aussi les conditions sociales qui représentent au fait... figure des parents pauvres, alors ça ne motive pas d'autres élèves, et aussi le désengagement classique de l'État. Donc les trois choses que notre invité a évoquées tout à l'heure, en brossant les conséquences de notre enseignement, de ce système de prise en charge de l'enseignant par les parents. François, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Gère, c'est vrai que mes prédécesseurs ont dit déjà des choses que je ne veux pas revenir. Mais c'est vrai que comme cette problématique de la prise en charge des enseignants par les parents ne nous a pas tellement servi que la qualité de notre enseignement est descendue plus à telle enseigne que nous n'avons plus de repères, ni pour les enseignants, ni pour les finalistes qui décrochent. J'aimerais que l'on supprime purement et simplement après avoir vidé tous les préalables, peut-être à travers les états généraux de l'éducation. Je ne sais pas. Les deux temps, vraiment, travaillent en solo et croient peut-être que ce qu'ils disent, que cela reste perçu comme parole, tant pour les gouvernants, de même que pour les syndicalistes. Voici, doivent mettre tous de l'eau dans leur vin de sorte à ce qu'ils puissent travailler ensemble, de sorte à ce que l'on puisse sauver l'éducation congolaise. C'est un état émergent.
Oui, alors,
François,
François, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec les avancées que nous avons pu enregistrer dans notre système éducatif, notamment avec la prise en charge de l'État qui a proposé la bancarisation d'ailleurs de la paye des enseignants dans un premier temps, et aussi le toilettage que l'État a fait sur le listing pour en fait déceler le fictif, enfin de permettre à l'État donc de récupérer quand même quelques reliquats et aussi augmenter en tout cas tant soit peu en tout cas les salaires, revoir un peu les salaires à la hausse. Est-ce que vous pensez que cela pourrait, en tout cas dans 2-3 ans, à court ou à moyen terme, changer quand même ou redorer l'image de notre système éducatif?
Je peux assumer, mais en face de vous, là, vous avez Yamboko Kuna qui risque de me contredire avant de sortir de votre studio. Parce qu'il y a quelque chose.
Oui, c'est ça,
pour travailler de sorte à sauver l'éducation congolaise. C'est un état émergent, mais nous n'avons pas de repères.
Merci beaucoup, François, d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Simon Kézama, Tadi. Simon Tiloulou, bonjour.
Bonjour, JR, et bonjour à Jean Bosco Puna. Donc, c'est Simon Tiloulou Mayamona, secrétaire provincial de Sénécat Bas-Congo et porte-parole de la synergie de tous les enseignants du Bas-Congo. Merci d'abord pour l'émission et les sujets. En fait, si nous faisons une analyse banale, même un enfant de l'école primaire, vous trouverez que nous avons plus détruit l'enseignement pendant toutes ces années où les parents nous ont pris en charge. Hier, avant 92, les enseignants avaient parfois les arriérés de 30 mois. Ils étaient même impayés et sous-payés. Mais la qualité, un enfant qui obtenait 51-52% aux examens d'État, aujourd'hui, ces élèves, ces finalistes-là, valent mieux que ceux qui obtiennent des 60% aujourd'hui, qui sont les fruits des prises en charge des enseignants par les parents. En province, les conséquences de ce système, c'est quoi? Il y a d'abord discrimination à tous les niveaux, en ville comme dans les milieux urbains. Vous verrez que ce système favorise les enfants des riches et laisse les enfants des pauvres dans une carence grave de manque de leçons. Parce qu'il faut savoir, un enfant qui rate les cours pendant 6 jours, il a raté 36 leçons. Or, le nombre d'absences moyennes annuelles dans nos écoles, c'est 50 à 40 jours d'absence à cause de ce système de retourner les enfants à cause de non-paiements. Et ceci étant, si vous multipliez par, vous verrez dans les 300, 400 leçons que cet enfant rate. Et puis la prime, la prise en charge de l'enseignant par les parents a supprimé totalement la prime de l'État aux enseignants. Vous savez, les infirmiers ont des primes, les fonctionnaires ont des primes, mais pour nous, que dit l'État? Non, ils ont un arrangement avec les parents. Alors que les parents payent les taxes, payent les impôts, les taxes et les impôts et tout ce relatif sont donnés pour que l'État ait des moyens, enfin, de payer ses agents. Et puis, nous vivons maintenant, aujourd'hui, dans des villages. Il y a carence d'écoles, il y a fermeture d'écoles, par manque d'effectifs. Pourquoi il y a manque d'effectifs? Les enseignants qualifiés ne veulent pas aller dans des villages à cause de la prime qui est très réduite au village. Ils vont dans des grands centres. Et ceux qui étaient au village quittent le village pour les grands centres. C'est du fait qu'on ferme les écoles. Et quand on ferme les écoles, il y a un problème de cartographie qui se pose. La distance entre la maison et l'école. Et les enfants au village, de plus en plus, le nombre d'enfants en dehors du circuit scolaire continue à augmenter. Finalement, ce système, étant donné que ça n'apporte rien par rapport à l'évolution de l'enseignement, sinon l'évolution, pourquoi ne pas les supprimer? Je vous donne un exemple. En 2004, les évêques ont écrit une lettre au gouvernement demandant la suppression dans les écoles conventionnées catholiques. Moi, je me rappelle, j'étais gradué. J'ai touché 3200 francs à cette époque-là. L'État est parti, à cause de cette dépression, de 3200 à 30 000. Donc, il a multiplié par 10. Mais il disait qu'il n'y avait pas l'argent. À cause de grâce à cette lettre des catholiques, nous avons pu bénéficier 30 000. Et aujourd'hui, donc si on supprime aujourd'hui, je vous dis, l'État trouvera l'argent. Parce qu'il n'aimera pas que sa jeunesse ne puisse pas étudier au détriment des autres provinces.
Alors, il faudrait que cette décision soit concertée. Hein. Il faudrait que tous les partenaires se mettent autour d'une même table, comme l'a proposé un auditeur. Il faudrait d'un côté des partenaires traditionnels étrangers, donc les organismes internationaux, également l'État congolais, les parents et les enseignants qui sont concernés, pour trouver quand même un terrain d'entente par rapport à cette question. Parce que, comme l'a dit Eddy, c'est difficile. Il faudrait vraiment mettre un programme de suppression progressive. Sinon, ça risque vraiment d'être suicidé.
Les vrais syndicalistes, les vraies associations, les ministères, on se concerte, on étudie tous les paramètres, parce qu'au village, il n'y a plus de gens qui apprennent. Alors, il y a des maîtres bouchons, les maîtres qu'on appelle bouchons, parce qu'il n'y a plus de qualifiés, on trouve n'importe qui peut d'abord occuper les enfants pendant ces temps-là, les autres vont au champ. Donc, on peut étudier tous ces paramètres, on dégage des solutions pour essayer de voir comment encore demain les Congolais, l'enseignement congolais, peut reprendre sa place dans le temps. Sinon, en tout cas, nous allons favoriser un camp de riches qui ont l'argent et les pauvres, leurs enfants resteront pauvres jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ.
081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Après la France, la Belgique, le Canada et les États-Unis, les francophonies s'installent en RDC.
Du 8 au 14 septembre, vibrez au rythme de sonorités congolaises et étrangères au stade Vélodrome, au théâtre des Verdures, au centre culturel Neko, au centre Wallonie-Bruxelles, à l'hôtel Ouest et dans certains bars désignés pour le folie.
Avec à l'affiche, La Queen, Johnny Clegg, Loco Kenda, Youssoupha, Papa Wemba, Jilin Piana, Fanny Poupa, Ferigola et des dizaines d'autres artistes congolais et internationaux.
Vous voulez assister au concert? Écoutez l'agenda culturel de Radio Capi à 6h20, 8h20 et 14h10 et gagnez des places.
Les francophonies de Kinshasa, du 8 au 14 septembre, avec Lac Bell, Afro Viviat et Radio Capi. Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci de votre fidélité à Radio Capi et si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs consacrée à un échange citoyen autour de la thématique relative au système donc de prise en charge des enseignants par les parents. 21 ans après, quel bilan brossez-vous? Alors, brossez-vous, nous allons revenir dans ce studio avec Jean Bosco Puna qui est le secrétaire général du SNECAT, syndicat national des enseignants catholiques. Alors, M. Jean Bosco, vous venez de suivre une longue série également des auditeurs. D'abord, quelle est la réaction que vous avez par rapport à...
Oui, la réaction, c'est qu'il faut dire, tous les intervenants ont conscience que le système éducatif tel qu'il fonctionne aujourd'hui doit être remis en cause. C'est-à-dire que le système la prise en charge des enseignants par les parents comme mode de gestion, comme mode de fonctionnement des écoles, ce système a prouvé ses limites. Mais il faut également dire pour ceux de nos camarades qui pensent que la suppression doit être progressive, il faut dire qu'il y a eu plusieurs tentatives qui avaient été prises. Ce n'est pas la première fois qu'on propose cela. Hein. Il y avait plusieurs tentatives, même au niveau le plus haut. Hein, je me souviens souviens encore, Madame la Présidente de la République, Madame Olive, avait initié en son temps cette suppression progressive, mais malheureusement, au niveau de la volonté de pouvoir appliquer, cela n'avait pas marché. Il faut également dire ici, lorsqu'on parle de la gratuité, c'est qu'il y a, par exemple, Eddy qui a parlé au niveau de Lubumbashi, eh bien, lui, il pense que les choses marchent encore, mais c'est parce que Lubumbashi a été exonéré de la gratuité, et puis Kinshasa a été exonéré de la gratuité. On pense que les parents de Kinshasa et les parents de Lubumbashi ont suffisamment de moyens pour continuer à prendre en charge les enseignants, ce qui est un leurre. Donc, nous pensons que avant le système de prise en charge des enseignants par les parents, et Simon Silou, qui est notre professeur dans le Bas-Congo, vient de le dire, avant, comment les écoles fonctionnaient-elles? Eh bien, les écoles fonctionnaient, les niveaux étaient plus ou moins là, parce que l'enseignant a gardé toute sa rigueur. Les écoles respectaient ce qu'on appelle les critères de délibération. Mais je vous donne un exemple aujourd'hui, lorsqu'on arrive à la fin de l'année, on fait passer les épreuves, eh bien, on arrive à la délibération. Vous allez vous rendre compte que les enfants sont délibérés sur base du revenu de leurs parents. Lorsqu'on se rend compte que cet enfant a payé ou il paye correctement bien, eh bien cet enfant n'aura jamais de problème, il doit passer des classes. Et aujourd'hui, vous vous rendez de plus en plus compte que les critères de délibération, c'est-à-dire il faut avoir 50% pour passer des classes, autrefois, si vous échouez en mathématiques ou en français, vous ne pouvez pas accéder à la classe supérieure. Mais aujourd'hui, eh bien, les écoles délibèrent jusqu'à 40%. Vous passez la première année pour la deuxième année. En deuxième année, l'enfant a les mêmes difficultés. Il est délibéré à 40%. Jusqu'en cinquième année, il a les mêmes difficultés. On lui accorde encore la chance. À 40%, il va en sixième année. Curieusement, en sixième année, il a 70%. Un diplôme ronflant qui présente une inadéquation entre les résultats et le niveau. Et les camarades a parlé, un des camarades a parlé des enfants qui sont chassés. Vous avez un des critères, c'est 222 jours de cours. Ça, c'est une norme. Mais les enfants n'accomplissent pas les 222 jours de cours. Donc, les parents doivent aussi, dans les associations des parents, comprendre que nous sommes véritablement devant une escroquerie sociale. C'est-à-dire, vous payez 300 dollars, 400 dollars, votre enfant est dans une école de catégorie A, mais à la fin de l'année, l'enfant sera soumis au même examen d'État. Donc, si cet examen est nivelé vers le bas, votre enfant également est nivelé vers le bas. Donc, si nous ne prenons pas garde, eh bien, c'est une communauté, c'est un abrutissement qu'on est en train de préparer pour que le Congo demain ne soit pas géré par ses propres filles.
Alors, le prix de fonctionnement aujourd'hui que l'État donne aux écoles, c'est à hauteur de combien à peu près?
Les prix de fonctionnement, d'abord, il faut souligner que ces prix de fonctionnement n'arrivent pas en franc congolais. Mm-hmm. Ce n'est pas au niveau des écoles secondaires, c'est au niveau des écoles primaires. Et ça, ce sont les partenaires qui les donnent. Donc, ce sont des frais qui ne dépassent pas 200 000 francs congolais. Vous comprenez? Regardez le besoin de nos écoles. Et les écoles, en principe, devraient être identifiées par rapport à leur taille. Mais lorsqu'on donne ces frais-là, qu'on appelle parfois fonds de famille, parce que quand le chef d'établissement les prend, bon, c'est toujours difficile de l'utiliser directement pour les frais de fonctionnement, parce que quelque part,
c'est un fonds de famille.
Fonds de famille. Et donc, c'est tellement minime que ça ne peut pas permettre à l'école de bien fonctionner. Et pour les écoles qui sont à l'arrière-pays, nous avons des réclamations. Ces fonds-là n'arrivent pas de manière automatique. Alors, que dire maintenant des écoles secondaires? Donc, nous pensons que c'est vrai, nous devons nous mettre autour d'une table. Il faut absolument que nous ayons une table ronde qui puisse mettre tout le monde ensemble. Et l'Église, en tant que co-gestionnaire du système, eh bien, elle doit se mettre véritablement à côté de la question. Parce que si l'Église continue à soutenir la prise en charge des enseignants par les parents, dans les écoles protestantes par exemple, chaque enfant qui paye les frais, il y a 10 dollars qu'on appelle frais scolaristes. Donc 10 dollars vont directement au niveau de la hiérarchie de l'Église protestante. Donc ça pose maintenant un véritable problème de notre foi. Il y a un prêtre qui nous disait que l'Église n'a jamais été du côté des pauvres. Et de plus en plus, nous commençons à nous rendre compte. Mais nous pensons que les Églises
vont ne pensez-vous pas que les fonds, en tout cas les mécanismes mis en place par l'Église catholique notamment, ça, c'est favorable aux enseignants, le fait de constituer un fonds hein, gérer au niveau de la coordination et au niveau de la hiérarchie de l'Église, c'est quand même pour au fait pour protéger ces fonds, hein, contre tout détournement qui pourrait se venir.
Oui, mais vous avez raison.
C'est pour aider les enseignants, c'est pour le bien des enseignants catholiques. Alors, est-ce que vous pouvez me faire une idée sur comment gérer ces fonds-là?
Oui, ça, c'est la première intention. Malheureusement, ces fonds est géré comment? Il n'y a pas de syndicat, vous comprenez? Il n'y a pas de représentants des enseignants. Et il n'y a pas de représentants des parents.
Là, vous êtes un syndicat.
Ah oui, on
est national des enseignants catholiques.
Tout à fait. Mais nous avons crié plusieurs fois, depuis qu'on a instauré le fonds, nous avons demandé que nous puissions avoir l'œil pour savoir effectivement comment se gérer. Mais vous comprenez que, bon, l'Église s'est octroyée ses droits et a refusé que les autres partenaires puissent comprendre. Aujourd'hui, même l'association des parents catholiques est réduite presque à sa simple expression, parce que les frais sont fixés directement par l'Église. Où a-t-on vu des choses comme ça? Ce sont les assemblées générales des parents, en principe, dans chaque école.
Mais ces frais sont fixés à géométrie variable.
À géométrie variable.
Quand vous allez, par exemple, dans tel collège où on demande 200 000 francs congolais, et vous allez ailleurs, c'est 200, les premières tranches, je ne sais pas, il y a pas mal de confusion.
Oui, alors, voilà la première confusion. C'est que lorsque les représentants légaux fixent les frais à la place de l'État, les ministres ne peuvent que regarder comme ça impuissant, parce qu'ils savent, si on doit bousculer l'Église, eh bien, il aurait des problèmes avec les enseignants, etc. Mais regardez, lorsque vous prenez un décret, vous fixez les frais. Pour les écoles primaires, c'est 90 $ qui sont fixés.
Ça, c'est au niveau de l'Église catholique.
Et au niveau de l'Église catholique. Oui. Et pour les écoles secondaires, c'est 180 $. Mais alors, si vous allez dans une école, par exemple, de catégorie A, on ne respecte même pas ce décret-là. Au lieu de 180 $, eh bien, ils vont jusqu'à 400 $, 350 $. Mais l'Église regarde simplement parce que les 20% sont là. Mais lorsqu'il faut lancer les débats sur la gestion de ces fonds-là, mais nous pensons que nous tous sommes fils de l'Église. Nous avons étudié, nous sommes des enseignants autorisés à enseigner. Eh bien, on doit laisser aux représentants des enseignants à pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait avec ces fonds-là. Mais nous savons de manière générale, étant voilà, donné que 21 ans...
Parole aux auditeurs, tentera quand même de solliciter quand même cette émission auprès de la hiérarchie de l'Église.
Tout à fait.
Pour un peu avoir un peu clair sur cette gestion, pour que ça ne soit pas une gestion opaque, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des infrastructures à réhabiliter, il y a aussi des conditions à améliorer au niveau des enseignants, et tous ces problèmes-là, nous allons les évoquer au cours d'une émission qu'on va faire, peut-être qu'on va programmer.
Oui, ça sera une émission, la bienvenue.
Oui.
Mais l'infrastructure, n'oubliez pas, c'est la charge de l'État, ce n'est pas la charge de l'Église.
C'est comme ça la convention
D'ailleurs, les textes de la convention est violé systématiquement aujourd'hui, parce que cette convention ne parle pas de la prise en charge des enseignants par les parents. Et donc l'Église doit se remettre en cause.
Voilà, alors, c'est vrai, on a parlé de partenaires, on va y revenir. Il est temps de demander à Joseph. Joseph, vous êtes à Lubumbashi? Bonjour.
Bonjour, Pierre.
Vous avez la parole, Joseph.
Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. On se dirait seulement pour voir en quoi ce système... l'invité a parlé qu'on est en train de faire une bombe à retardement, mais c'est une bombe qui a déjà explosé. Je vais vous faire raisonner seulement avec deux faits. J'ai mon petit frère dans une école catholique, et à la première session, il a 62%, il revient dans un cours, il fait le latin philo, il revient en mathématiques. À la deuxième session, il apparaît aussi en mathématiques, il a 59%, et on appelle le collège des enseignants, c'est dit, l'enfant ne doit pas passer la classe. Donc c'est parce que c'est moi qui paye l'argent de cet enfant, j'ai mis, il a 59%, il fait le latin philo, et il a seulement l'échec en mathématiques, je m'assure, je compte cette décision des enseignants. Pour quelle raison? C'est moi qui paye l'argent de cet enfant avec mon modique salaire que j'ai. Et je te donne encore un autre exemple. Pourquoi ce système il est bizarre? Tu l'as peut-être été en Zambie, en Afrique du Sud. Je te dis, tous les médecins qui sont dans de grands hôpitaux là-bas, en Zambie, ce sont des médecins congolais. Pourquoi ils fuient leur pays? Parce qu'ils n'ont pas l'amour pour leur pays, parce qu'ils se disent, j'ai étudié pas. Parce que l'État a mis sa main, c'est parce que mes parents ont mis leur main là-bas. Et quand j'ai fini mes études, je ne vois pas pour quelle raison je dois travailler pour cet État qui n'a pas pris en charge. Je dois aller donné mes compétences à l'étranger. Donc, c'est-à-dire quoi? En fait, mes données, bien sûr, c'est une chose, mais mes données concernées ne travailleront jamais pour leur pays parce qu'ils se disent que le pays n'a rien fait. J'ai étudié dans une école, un autre exemple pour terminer, j'ai étudié dans une école où c'est moi qui amène mon tabouret pour l'école, c'est moi qui amène le tabouret, le siège sur lequel je dois m'asseoir. Et vous pensez que je ne veux pas écrire le nom sur ce tabouret, mais quand vous baladez vos micros, vous attendez les enfants qui disent que les biens de l'école, ce sont des biens publics. Ce ne sont pas des biens publics parce que ce sont les parents qui cotisent de l'argent pour qu'on paye sur lequel les élèves vont se mettre. Quand vous avez des intervenants qui pensent que ce système doit continuer, ce sont des gens animés de mauvaise volonté, l'État doit prendre les choses en main. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous avez des élèves qui finissent. Ils ne sont pas intervenus à une émission citoyenne comme celle-ci parce qu'ils n'ont pas de mots qu'ils doivent dans leur bouche, ils n'ont pas des arguments à dire. Moi, je suis conditionné de dès que j'ai fini en biologie chimie, c'est parce que j'ai au moins étudié dans une école primaire à l'époque où c'est l'État qui prenait en charge l'enseignement. Et aujourd'hui, si je parle devant vous, j'interviens dans une émission comme celle-ci, c'est parce que j'ai une base
solide.
Cette base, je ne l'ai pas eue à l'école primaire, mais à l'école secondaire, c'est depuis l'école primaire. Et donc, c'est un système qui doit être supprimé sans condition, parce que vous ne formez jamais de jeunesse pour travailler.
Voilà, Joseph, s'il vous plaît, vous pouvez garder la ligne. Comme ça, on va revenir à vous. C'est vrai qu'on comprend. Vous avez rejoint l'idée de notre invité, hein, qui parlait des prises en charge de l'enseignement par les parents et non des prises en charge des enseignants. Voilà, on va revenir à vous dans un instant.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
On poursuit avec parole aux auditeurs. Une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez pour participer à cet échange citoyen, bienvenue dans cette émission. Joseph, nous vous avons gardé en ligne avant le bulletin d'information. Vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors, vous voulez ajouter quelque chose?
Non. C'est pour vous dire pourquoi ce système est mauvais. Je peux donner un exemple. Oui, je parle de mon propre cas. Moi, je suis à Lubumbashi. J'ai mon petit frère qui est à Calémie. Il m'appelle, il me dit, grand frère, on m'a dit je dois reprendre la cinquième année parce que j'ai 59%, mais j'ai échoué en mathématiques.
Oui,
moi, je dis,
Oui, Joseph, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Joseph, ne revenons pas sur ce que vous avez déjà dit. Bon, le temps pour nous de prendre plutôt Olivier qui est à Moubi. Olivier, bonjour.
Bonjour, JR, bonjour à notre invité. Bonjour également à tous les auditeurs de la Radio de la Paix se trouvant à Moubi.
Vous avez la parole, Olivier.
Oui, moi, j'ai suivi avec intérêt tous mes prédécesseurs, ils ont beaucoup parlé, mais je trouve que c'est une certaine situation d'égoïsme, parce qu'ils s'intéressent beaucoup de la suppression de la pratique de la prise en charge des enseignants par les parents. Cela est dû parce que ses amis sont peut-être dans des villes où toutes les écoles de la ville sont bien rémunérées par le gouvernement congolais. Tandis que si nous pourrions un peu jeter un coup d'œil pour nos amis qui sont dans des milieux reculés ou peut-être il y a même des écoles, selon ce que nous sommes en train d'enregistrer comme information, il y a certaines écoles qui ne sont même pas connues par l'État, qui ne sont pas mécanisées, les enseignants ne sont pas payés. Maintenant, si on pourrait dire que non, directement, d'une manière brusque, on puisse supprimer cette pratique de la prise en charge des enseignants par le parent. Une pratique qui n'est pas d'ailleurs bien, mais quand même, nous vivons de cela parce que nous manquons ce qu'on a voulu. Je pense que ces écoles seront vraiment dans une situation qui sera en train de priver ces enfants de cette partie du pays dans l'évolution sur le plan administratif. Je pense que nous, étant des cadres aujourd'hui, peut-être que parmi nous, il y a ceux-là qui ont eu la chance d'avoir un tel titre ou un tel autre titre scolaire, soit un diplôme de grade, diplôme. Comment avec mon titre.
Voilà, désolé, on ne sait pas continuer avec vous, Olivier. Votre ligne, la qualité est en train de se dégrader. On ne saura pas vous garder en onde pendant plus longtemps possible. Hein, donc, on est désolé. On va prendre l'inspecteur André Kiungu qui nous a rejoint, qui tient aussi à préciser quand même certaines choses par rapport à ce système. Monsieur André Kiungu, vous êtes inspecteur académie.
Oui, je suis inspecteur académie.
Oui.
Mon intervention va porter essentiellement sur les solutions apportées parce que le problème est là, il existe. Mais seulement que pour bien sauter, il faut reculer. La solution simple que nous pouvons demander à nos autorités, surtout à nos parlementaires, parce que le système éducatif ici, il est un peu en difficulté, c'est parce que la prise en charge des enseignants est entre les mains des parents. Bon, cette prise en charge n'est pas quand même mauvaise, elle est bonne, mais comment il faut l'appliquer? Moi, j'ai suggéré, je demanderai à ce que nos parlementaires revoient d'abord la loi qui demandait que les contributions personnelles minimum, les systèmes qui existaient bien avant. Parce que dans le système, il y aura par exemple ici un parent classe de basse classe, s'il payait 1000 francs par an. Avec le nombre, la population que nous avons, de centaines de millions de personnes, cet argent-là, qu'elle soit menée, cet argent soit affecté simplement pour le problème de paiement des enseignants. Dans ce cas-là, on peut résoudre les problèmes de la gratuité parce que les enseignants seront bien payés, parce que ça sera un bon montant qui va combler ou bien qui va pallier là où l'État n'est pas possible de trouver l'argent.
Merci beaucoup, inspecteur André Kiungu, d'avoir appelé des Kalemi. On va prendre Florent qui est à Kolwezi, toujours dans les Katanga. Bonjour Florent. Florent, vous êtes avec nous? Voilà, il n'est pas en ligne. On revient à vous plutôt, Jean Bosco Puna. C'est vrai, il y a parmi les inquiétudes, hein, nous avons résolu quand même une chose aussi. Aujourd'hui, c'est vrai, ces frais qui sont demandés, les frais des motivations, dépendent d'une école à une autre. Parce que vous allez, par exemple, moi j'ai vu avec les billets de vacances de mes enfants, un qui est au collège et une autre qui est au lycée. Alors on demande 180 000 francs, en tout cas pour les écoles catholiques, dans une école là où étudie mon garçon, on dit c'est facultatif, vous pouvez payer ou pas. Alors que d'autre part, on met ça dans la rubrique obligatoire.
Oui, mais justement, nous
avons... Ça prête à confusion, même.
Ça prête véritablement à confusion, et c'est pourquoi c'est véritable. Nous devons avoir une volonté réelle d'aller de l'avant, de nous dire que non, il n'y a plus question d'être tergiversé. Vous savez qu'à l'introduction de l'émission, vous avez bel et bien précisé que c'est 21 ans après.
Mmh.
C'est-à-dire que les enfants qui ont commencé avec ce système, il y a déjà des diplômés, il y en a qui sont à l'université. Et il faut comprendre les déboires à l'université là-bas. Moi, je pense que tout à l'heure, inspecteur, j'ai de parler, mais peut-être qu'il ne sait pas qu'il y a ce qu'on appelle les fonds de promotion de l'éducation nationale. Nous nous sommes battus pour l'instauration de ces fonds. Le décret présidentiel a instauré les fonds, mais malheureusement, comment ces fonds sont gérés, ces fonds-là n'ont presque rien et puis ne répondent pas aux besoins de l'éducation. Nous pensons personnellement au niveau du syndicat qu'il faut qu'il y ait vraiment des mesures courageuses pour changer les choses. Il y a quelqu'un qui a parlé des primes institutionnelles. Il n'y a que les enseignants qui n'ont pas de primes institutionnelles. Lorsque nous allons dans les banques pour toucher les salaires, vous allez voir à gauche, il y a un agent de l'État qui est dans notre qui est à l'agriculture ou dans un autre ministère. Eh bien, il a une enveloppe toute différente de l'enseignant. Vous le trouvez avec 300-400 dollars. Eh bien, vous vous contentez des 90 000 francs qu'on vous donne. Et là-dedans, il faut payer les loyers, il faut scolariser les enfants. Je crois que là, il y a un problème. Nous avons le problème de 200 000 enseignants non payés, c'est-à-dire des enseignants qui vont à l'école, qui travaillent à la fin du mois, eh bien, ils n'ont pas leur salaire. Et ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Il y a le problème de la formation. si nous voulons que nous ayons un enseignement de qualité, il faut que la formation initiale, c'est-à-dire les élèves qui terminent les humanités pédagogiques, doivent être des élèves bien formés. Mais si ces élèves-là ne sont pas très bien formés, ce sont ces élèves qui doivent transmettre les connaissances au niveau de l'école primaire. Et donc, vous comprenez que c'est la débâcle. Et quand vous parlez de la formation continue, là aussi, il y a un problème. Enfin, vous avez également parlé de la bancarisation. Lorsque nous avions accepté la bancarisation, eh bien, nous l'avions accepté sur base de deux éléments. Le premier élément, c'est que la bancarisation allait faire des économies. Malheureusement, à ce jour, on ne sait pas évaluer ces économies. La deuxième chose, c'est la maîtrise des effectifs. Mais poser la question au ministre de la fonction publique, il n'a aucune maîtrise des effectifs. Donc, vous comprenez qu'il y a un véritable problème au niveau de l'homme qui dirige. Il faut que ces choses-là changent. Parce que si la bancarisation avait apporté des solutions, on allait améliorer l'enveloppe salariale des enseignants. Il y a un auditeur qui a parlé de l'enveloppe de 100 millions. Et même le gouvernement, dernièrement, avec la pression, le gouvernement parle de 5 milliards de francs congolais, mais il ne dit pas qu'est-ce qu'on ajoute à chaque enseignant. Donc on met tout dans un bloc. Or, nous savons que dans les 5 milliards, il y a 1 milliard pour la mutuelle de santé qu'on va ouvrir en Bandaka, et un autre milliard, ça sera à Kisangani. Dans les 3 autres milliards, eh bien là, on va voir quelles sont les nouvelles unités qu'on peut récupérer. Donc vous comprenez que l'enseignant, cette année encore, ne va connaître aucune augmentation.
Voilà, alors pour peut-être apaiser aussi les esprits, on était habitué quand même à cette question, aura-t-elle lieu ou non, c'était devenu revenu pratiquement sur toutes les lèvres la veille de la rentrée scolaire. Est-ce que ça sera la même chose cette année aussi?
Oui, la rentrée scolaire a été fixée pour le 8 septembre par les pouvoirs organisateurs. Mmh. Et vous savez qu'une rentrée doit faire l'objet d'un consensus. C'est-à-dire, il y a d'un côté les parents, il y a les partenaires sociaux qui sont les syndicats. Eh bien, la rentrée, c'est pour le 8 septembre, mais il y a des préalables. Parce que les enseignants, au moment où nous parlons, même dans les banques, il y a des enseignants qui n'ont pas encore touché le mois d'août. Donc, nous avons une grande assemblée générale demain, le 28. D'ailleurs, nos amis de Kikwit sont déjà là. Nous attendons ceux de Matadi, de Kazangoulou et de Kenge. Nous allons devoir échanger demain pour voir de l'opportunité de cette rentrée. Et notre cri, c'est vraiment vers l'État congolais qui est notre premier patron, mais en même temps nous interpellons les églises pour qu'elles puissent soutenir la position des enseignants qui sont du reste leurs fidèles. Parce que si nous continuons avec ce système, eh bien, nous n'allons pas nous en sortir, ça sera toujours un enseignement au rabais, où vous avez des gens qui sont mal formés, mais des gens qui ne seront pas capables à pouvoir prendre la relève demain.
Je peux considérer ça comme mot de la fin, votre mot de la fin?
Oui, c'est le mot de la fin. Je remercie la radio Capi pour l'occasion qu'il nous a donné et qu'il a donné aux enseignants qui nous ont suivis.
Voilà, merci beaucoup Jean Bosco Pouna. Nous n'allons pas nous quitter sans pour autant lire les messages que les auditeurs nous ont envoyés, en tout cas les internautes. Hein. Ils étaient nombreux à consulter notre site et aussi à s'intéresser à cette thématique. Bishop Strauss, Ndeko, dit ce système a fait baisser le niveau de l'enseignement à RDC. L'État congolais doit assumer sa responsabilité de payer les enseignants, aux enseignants un salaire décent qui puisse motiver ceci à dispenser les cours dans des bonnes conditions. Christopher Boulambo qui est à l'Ondawa. La prise en charge d'enseignants par les parents est un système qui est à l'origine de la dégradation de la qualité d'enseignement dans notre pays. Jean renchérit le problème de prise en charge des enseignants car se pose avec acuité car les parents ne donnent pas la chance à tous les enfants. Les enseignants donc ne donnent pas la chance à tous les enfants à l'âge scolaire de fréquenter l'école. Kadi Kadima, ce système est à la base du clientélisme qui caractérise et gangrène l'enseignement dans notre pays. En tout cas, vous étiez nombreux à nous avoir envoyé vos messages. Nous vous disons merci et on dit également merci à vous tous ceux qui avez participé à ces débats citoyens. Merci à Sylvain Matundou qui a assuré la mise en onde de ce programme. Gilly Fezam, la Bongonda et Piro et la Mégie ont réalisé cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. Vous pouvez réécouter ce programme sur www.radiocapi.net et en rediffusion tout à l'heure dans la soirée. À très bientôt pour un autre débat.